Bonjour. Déjà bienvenue. Merci d'être présent pour le petit déjeuner organisé par Théma. Peut-être juste vous replacer un petit peu le contexte. Alors du coup, déjà, moi je suis Claire, je suis trésorière de Théma et je m'occupe de la diffusion et de la production de plusieurs compagnies en France et à l'étranger. Et je te laisse te présenter.
Et moi, je suis Sarah Favier et je suis avec la compagnie Plexus Polaire, une ville d'Aspélie, sur la production, la diffusion.
Voilà. Et en fait, l'idée de ce petit déjeuner fait écho à un dispositif qu'on a lancé l'an passé déjà avec Théma, qui est un dispositif d'accompagnement et de réflexion autour de l'accompagnement de jeunes administratifs, c'est-à-dire jeunes chargés de diffusion, jeunes administrateurs, dans les compagnies, avec deux volets. Un premier volet, on va dire vraiment resserré, qui concerne une dizaine de personnes qui vont être accompagnées par ce qu'on a appelé un tuteur, de façon un peu formelle, plus expérimenté, sur justement qui va être une personne ressource qui, tout au long de l'année, va lui servir de référence, voilà, qui sera consulté quand il y aura des soucis, des questions, des interrogations, et des rendez-vous au cours de l'année sur des points un peu plus formel, comme par exemple l'année dernière, on a organisé un BABA autour de l'administration, un BABA autour de la diffusion et un BABA autour de la production. Ça, c'était la première année. Cette année, le dispositif est reconduit avec deux nouveaux BABA, un autour de la médiation qui aura lieu en février et un autour de la stratégie de compagnie qui aura lieu en novembre. Voilà, organisé par Théma toujours. Et donc, évidemment, on avait envie, étant donné qu'on est à Charleville, d'organiser quand même quelque chose autour de la question de l'international, parce qu'on trouvait que c'était aussi le bon lieu pour ça, et que peut-être à terme on aimerait organiser un BABA l'année d'encore après sur cette problématique-là, mais ça permettait déjà de se rencontrer, de poser un peu les interrogations, des bases, pour ne serait-ce qu'échanger sur ces problématiques-là. Voilà, on en est arrivé à ce questionnement-là. Voilà, on en est là.
Petite question, juste, est-ce que ça va à tout le monde si on parle en français? C'est bon pour tout le monde?
Tant mieux.
Ok. Good question.
Vraiment, je veux dire, si vous demandez en français.
Si on. Est-ce qu'il y a besoin de traduire en anglais pour certaines personnes?
Is there someone that doesn't speak French?
Oh,
yeah!
Yeah.
Come on,
yeah!
I didn't see you coming.
And it's necessary to translate? If
non, elle parle très bien français.
You speak from
no, no, I don't.
Si,
no, it will be necessary to translate.
Peut-être. On verra. Okay. Voilà, donc on a invité Yael Razouli à venir, voilà, qui est une artiste et metteur en scène israélienne, voilà, qui voilà, à venir parler aussi de son expérience. Je te laisse la parole, peut-être, Sarah, déjà pour.
Alors, hier, on a fait un petit voilà, on se disait, mais comment ouvrir ça? Et en fait, le constat un peu de départ, alors si on reste sur le domaine de la marionnette, c'est que quand même, pour la plupart des compagnies françaises, il n'y a pas trop de diffusion à l'international. Alors, à part pour des toutes petites formes ou pour des très grosses compagnies, il y a quand même,
une espèce de vide.
Un gros vide de compagnies qui ne tournent pas à l'international. Et dans les gens qui tournent à l'international, même s'ils sont en France, c'est principalement des personnes d'autres nationalités. Alors, on se disait, mais voilà, pourquoi? C'est un peu cette ouverture-là de... Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est des freins? Est-ce que c'est... Voilà.
Avec la question inhérente qui va derrière, évidemment, de cette production, justement, savoir si c'est quelque chose qui est pensé dès la création du spectacle ou... On est sur ces problématiques-là, en fait.
Et donc là, l'idée, c'est d'aborder un peu les deux parties, à la fois cette partie de production et la diffusion. De voir comment c'est lié ou pas.
Voilà. Donc du coup, je ne sais pas, déjà peut-être on peut reparler de ce constat, savoir si c'est quelque chose que vous semblez partager. La première question, c'est est-ce qu'on fait un tour de table pour se présenter tous ou pas? Je ne sais pas si c'est... Non, ce n'est pas nécessaire. D'accord.
Peut-être quand vous... Si vous...
Voilà. Oui, quand vous prenez la parole, vous vous présentez peut-être, ce sera le plus simple. Quoi. Oui. On a demandé si tout le monde parlait français.
Oui, tout le monde parle.
Voilà, on commence par toi.
Eh ben, est-ce que par rapport du coup à cette question-là, est-ce que ça vous semble cette réalité-là, ou est-ce que vous voyez déjà des divergences et qu'est-ce que...
Là, on parle de notre modèle français, mais c'est tout à fait peut-être possible de prendre la parole au niveau aussi, parce qu'on sait que du coup, il y a des personnes qui ne sont pas forcément françaises dans la salle, pour parler de leur expérience. Est-ce que c'est la même chose dans votre pays ?
Est-ce que ça reste sur un schéma national et ouais. Est-ce que ça s'explique ? Voilà. Comment ça fonctionne ?
On peut parler ? Ouais. Alors, du coup, on va... Oui, on l'avait prévu après. Mais...
Oui, oui, oui. Un peu après ?
Oui, mais c'est ça. Bon. Tu voulais, toi,
Stéphanie ?
Déjà, tu as distingué deux choses.
Si tu peux te présenter.
Ah oui, pardon. Donc, Stéphanie Lefort, je m'occupe de la compagnie des Ensembles, qui vient de Lyon. Moisson d'Avril, qui est un biennal à Lyon, et depuis peu, un projet en gestation qui s'appelle Les Voix de la Marionnette, qui est un projet de résidence de création à Madagascar. Et donc, c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille sur l'international, on a toujours bossé. C'est vrai que Guignol est un personnage assez universel, donc on a toujours pas mal travaillé. Mais je dirais qu'il faut peut-être distinguer deux choses qui sont la diffusion à l'international et la production. Mmh. Parce qu'en termes de diffusion, en France, on est quand même assez outillé avec l'Institut français et les alliances françaises. Bien sûr, après, les gros spectacles tournent rarement dans les alliances. Mais enfin, il y a quand même un réseau de diffusion qui existe. Et quand on a la chance de rentrer dans ce petit réseau-là, la diffusion, elle est relativement facile après. Mais ça, c'est une vision un peu auto-centrée, j'allais dire, de la manière dont on tourne à l'international. Mais il y a aussi la question de la production, c'est-à-dire comment on fabrique des spectacles avec des compagnies étrangères, comment on collabore, comment on fait des coopérations artistiques. Et là, on rentre plus dans ce qu'on appelle, c'est pas très joli comme mot, mais cette espèce de coopération décentralisée, qui est très institutionnel, mais enfin, les artistes arrivent assez facilement, pour peu qu'ils en aient l'envie évidemment, à tisser des liens comme ça avec des artistes de d'autres pays. Mais en général, ces projets-là tournent moins. C'est souvent des projets one shot où on va fabriquer à l'étranger. Ça vient tourner en France un petit peu parce que c'est souvent réciproque, une réciprocité. On va jouer et fabriquer à l'étranger, jouer et fabriquer en France. Et puis le projet s'arrête. Donc c'est vrai que la difficulté, c'est un petit peu de faire continuer peut-être ces projets-là qui sont souvent quand même, j'allais dire onéreux, oui et non, parce que ça peut aussi se faire avec les moyens du bord. Après,
bon,
voilà, c'était juste une piste de.
C'est juste sur ce que tu dis plus tôt, c'est assez simple de rentrer dans ces réseaux de diffusion.
Oui et non,
y a la question de.
C'est simple,
est-ce qu'on y rentre par volonté, par nécessité ou est-ce que c'est. Parce que des fois, ça arrive, cette diffusion à l'international, sans qu'on l'ait réellement cherché. C'est ce constat-là qu'on a fait aussi. Mais par contre, des fois, c'est une vraie volonté. Mais alors, dans cette volonté, c'est là qu'on revenait à la production. Est-ce qu'il fallait l'avoir pensé en amont ? Et si on ne l'avait pas pensé en amont, est-ce que c'était un frein ?
Je ne sais pas s'il y a des gens qui tournent dans les agences françaises ici. Il me semble quand même que c'est quelque chose qui se cogite. C'est un réseau particulier quand même.
Donc, il faut avoir la volonté.
Il faut appeler Mme Machin à l'Institut français. Donc, elle vient voir mon spectacle. Et puis il faut qu'il n'y ait pas trop de monde sur le plateau, et puis bon voilà, il ne faut pas qu'il y ait non plus 3 tonnes de décors. Donc oui, je pense que ça se cogite un peu, mais peut-être que l'Alliance, dans notre expérience à nous, donc c'est notre expérience à nous, elle est venue après, c'est-à-dire que après avoir travaillé pas mal de temps à l'étranger avec d'autres artistes étrangers, il s'est trouvé qu'on a croisé forcément le chemin des Alliances françaises parce que, par exemple, quand on était au Cameroun, quasiment les seules structures d'accueil d'artistes, c'est les Alliances. Donc forcément, on se fait connaître comme ça. Et après, c'est vrai que je réfléchis, parce que j'essaie de penser les premières tournées internationales, c'était quand même des alliances qui venaient vers nous. Parce qu'on a un personnage, c'est vrai, qui a cette valeur-là, un petit peu tradie, universelle et tout. Mais cela dit, c'est pas non plus la tasse de thé de l'Institut français. Voilà. Quand on dit qu'on est mignon, on regarde un peu comme ça. C'est pas exilé. Mais donc, il me semble quand même qu'il faut avoir cette envie de...
Justement, c'était une des questions qu'on voulait poser. C'était la question de qu'est-ce qui pousse à faire une production à l'international. Est-ce que c'est la nécessité artistique, vraiment, d'avoir, je ne sais pas, on avait proposé à Dorothée, mais on l'a proposé un peu tard, de la compagnie A, de pouvoir venir, parce que justement, pour le coup, elle, c'est une coproduction avec la Chine sur une thématique, voilà, autour de, enfin, voilà, d'une, vraiment une thématique chinoise. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de voyager et que non, mais c'est une question aussi. Enfin voilà, c'est aussi parce qu'on a envie de créer un spectacle qui va tourner et parce qu'on a envie de faire le tour du monde. J'en sais rien, ça peut être aussi une possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que, enfin voilà, est-ce que c'est parce que les artistes qui sont dans le projet sont de toute façon de nationalités différentes qui font que bah voilà, il va y avoir, enfin a priori ça va tourner dans les différents pays, il y a autant de possibilités en fait, enfin voilà, nous c'était ça, c'était un peu voir un peu vos partages d'expérience, si vous avez justement des exemples à nous proposer là-dessus.
Est-ce que dans vos points de départ il y a cette volonté de tourner à l'international, et si oui, quel, pourquoi, et quelles questions, quels freins vous pouvez trouver en face? Oui,
Julie, oui.
Moi-même, je fais venir des compagnies françaises.
Tu peux te présenter?
Ah, je viens de Segovia, d'Espagne, et dans un festival qui s'appelle Kikim. Alors, très souvent, je fais venir, tout le temps, je fais toujours venir des compagnies étrangères, et très souvent françaises, pour des raisons artistiques. Il y a aussi l'affinité culturelle, non? Et artistique. Je pense qu'ici, c'est la chance d'avoir un pays qui est très créateur. Il y a beaucoup de très bons créateurs. Et alors, c'est un pays qui m'intéresse énormément. Ce n'est pas le seul. Mais... Alors, ce que je pense à ce sujet, c'est que les compagnies cherchent un marché un peu plus grand. Parce que la France, qui est un grand marché par rapport à tous les autres pays du monde, c'est peut-être pas suffisant pour beaucoup de personnes. Et ils cherchent le marché international. Pour cela, très souvent, on fait des concessions et on fait des spectacles qu'on appelle internationaux. Ceux qui sont non pas à comprendre la langue, ils sont faciles à comprendre. Ça c'est quelque chose de... C'est intéressant, en tout cas, la vidéo. Voilà. Pourquoi il y a des créateurs qui font des spectacles sans parole, tout simplement pour le besoin de tourner dans le monde. Ça a des côtés positifs et ça a des côtés. Mais par rapport à mon expérience, je fais très souvent venir des compagnies françaises, mais ce n'est pas souvent que j'obtiens des aides publiques, des autorités françaises.
Ça, c'est intéressant.
C'est très intéressant pour nous.
Parce que du coup, en effet, c'est vrai que l'Institut français, qui est le seul qui peut aider, on va arriver justement à la question des dispositifs de toute façon, mais l'Institut français, qui est à peu près le seul à proposer des aides à la mobilité en France, va pas aider l'Espagne, va pas aider à partir en Europe. Enfin voilà, c'est vrai qu'il faut, va pas forcément aider à partir au Québec. Ça va plutôt être sur des pays.
Ouais. Non, et c'est qu'il y a encore autre chose. Par exemple, les Instituts français, les ambassades aident aux compagnies qui viennent à Madrid, à Barcelone, dans des grandes villes. Alors que si c'est dans des petites villes qui ne sont pas très connues, il est très difficile d'obtenir des aides. Cela dit, par exemple, Jaël, je l'ai fait venir. Et j'ai eu une aide du gouvernement israélien.
Alors ça, c'est parfait.
Les voyages. Mais j'ai beaucoup de difficultés à l'État. Beaucoup énormément. Parce que nous sommes une petite ville. C'est vrai que c'est le plus gros festival porté à l'Espagne, mais c'est de Madrid. Et ce n'est pas encore très reconnu encore, non, comme un art aussi important que le théâtre de l'acteur.
Et est-ce que tu fais de la production à l'international, enfin voilà, justement là, parce qu'on était sur la question, là on parle de la diffusion, diffuser le spectacle, mais est-ce que justement tu aides la coproduction non, c'est ça, hein,
de... Nous n'avons pas le moyen pour le faire. Non. Pour le moment, on fait beaucoup, on fait venir beaucoup de compagnies. On fait des grands diffuseurs, surtout de la marine française, mais de tout le monde. Tout le monde normalement, mais la France, c'est notre chérie. C'est le
moment. Et est-ce que pour les.
Des résidents, non pas non plus, parce qu'on n'a pas les moyens.
Ça, c'est aussi une piste intéressante, en effet, de se rendre compte qu'en France, on a quand même aussi, c'est ce qu'il disait, toute une armée de dispositifs qui permettent de créer, il y en a de moins en moins, mais quand même, qui permettent de créer dans des bonnes conditions, des coproductions, des accueils en résidence, etc., qu'on ne va pas forcément retrouver partout, enfin, dans tous les pays. C'est ça aussi. Et ce qu'on se disait aussi avec Sarah quand on travaillait sur ça, c'était que quand même, il y a peut-être aussi une autosuffisance en France, parce que tu parles de besoin d'aller jouer à l'étranger, mais quand même... De quoi ?
Moi, je peux témoigner ouais. En Belgique, enfin au nom du Topia, qui est une compagnie belge, ben, nous, on est sur un tellement petit territoire que c'est une nécessité possibilité de, d'aller jouer à l'extérieur, d'aller chercher de la coproduction à l'extérieur.
En France, non. Enfin, je veux dire, on peut très bien s'autosuffire.
Et aussi, mettre en place un dispositif pour aider à la mobilité des compagnies. Mmh. Mais il n'aide pas systématiquement. Il faut que ce soit un festival avec
Peut-être on peut revenir à l'expérience de Yaël.
Yes.
Voilà, tu peux peut-être nous expliquer, parce que la question dans tout ça, c'était comment on réussit à avoir un réseau international. Comment on réussit à mettre le pied là-dedans? Pourquoi? Comment tu as fait?
Well, maybe I tell a bit from my experience coming from. I'm from Israel.
Je vais traduire. Je vous propose de traduire, ou tout le monde comprend l'anglais?
Je viens de Jérusalem. I will try and we'll do a melange.
Okay.
To come from Israel, je pense que c'est vraiment pas la même chose, et pas proche aussi. For me, je sais que quand je parle avec une artiste française, je connais beaucoup qui est indépendante et aussi fait beaucoup de tournées en étranger quand on s'est rencontrés. But I know that also some people in France vraiment peut rester dans leur pays et vivre comme ça et travailler comme ça. Mais en Israël, c'est vraiment pas possible. Pour moi, la France a changé beaucoup de choses. Toute ma profession et la aussi Charleville. I came here like 9 years ago. For the first time, I wanted to be a student. Pour être dans l'école, mais c'était chaque 3 années. Mais j'étais dans le festival et j'ai découvert ce monde de marionnettes et aussi les personnes qui font le spectacle dans les valises. Et ding! Wow, ok, comme ça. Et tu crées ton monde et tu peux faire le. Tu sais, you can do this, like all that. Why we do puppets, yes? I thought c'est vraiment le monde de penser. Et, ok, c'est it's against all odds. I don't know how to say it.
Against all
odds, like it's odds, like chance, like it's to be, pour être un créateur indépendant israélien, c'est pas possible de vivre en Israël, like. Peut-être si tu es un acteur dans le théâtre national, mais pas pour faire le théâtre, c'est très très rare, très rare. Et moi aussi je pense, I thought that okay, it's also possible, I go out to the international platform, maybe I will be able to survive really in like doing what I want to do and love to do. So it came, and of course, you know, the buzz, I don't know, the buzz.
Et pour arriver sur ces plateformes, pour toi, ça a été un passage par la France, ou comment s'est fait cette ouverture?
Pas seulement, mais ça a commencé avec d'autres pays. Ça commence quand j'étais encore une étudiante. J'ai eu de la chance parce que dans l'école que je was in, l'école de théâtre visuel à Jérusalem, il fait de échange avec we did a petite tournée pour le festival de students, des étudiantes. So it was the first time I presented my work abroad, and then I just started. I think they call it networking.
Networking, du coup, voilà, c'est créer du réseau, quoi.
But I really, j'ai eu juste un peu d'inspiration par quelques autres personnes en Israël. Le Gertrude Show, si quelqu'un a vu. C'était ma prof. Ça m'a donné beaucoup de courage. Mais il faut vraiment inventer. I think also today I'm also trying to. It's really like I think there is a lot of il y a un avantage quand tu viens d'une situation que tu n'as pas beaucoup, et c'est dur de créer There is no much support for the arts, and there is a very small, small. Il y a une scène très très petite israélienne pour les marionnettes et théâtre des objets. But yeah, c'est une bataille, mais ça donne quelque chose cette bataille, mais quand même.
Non mais c'est intéressant d'entendre, bah, voilà, entre Miline et Saint-Emilia sur la Belgique et Yael, on comprend en fait, c'est ça, là, c'est marrant parce que moi je parlais là dans mon présupposé de base, c'était plutôt l'envie de tourner à l'international, mais en effet il y a la question du besoin, parce que sinon, la nécessité, sinon on n'arrive pas
à... Oui, mais les deux travaillent bon ensemble. Mmh.
Mais qu'on n'a pas forcément cette nécessité, en fait, vu aussi le nombre de lieux qu'il y a en France, parfois, voilà, on travaille déjà sur ce territoire-là. Et peut-être de ne pas aller plus loin.
Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de tourner en France. Après, il y a aussi énormément de compagnies. Et il y a un peu l'expression d'une des personnes dans son pays. Et dès qu'on va tourner souvent à l'international, on regarde aussi autrement. Quand on revient entre guillemets en France, c'est ah, ok, eux, ils sont capables d'aller à l'international. Oh, ok, ils ont décroché un nouveau réseau. L'image qu'on a du coup sur le travail de la compagnie, en général, je suis pensée aussi à ce moment-là, peut y avoir un.
Je me souviens d'une rencontre avec les différentes personnes de la DRAC Bretagne, et c'était intéressant parce que la réflexion était sur une renommée de compagnie, et c'est justement là-dessus, l'idée c'était de travailler sur le territoire proche, donc la région, l'international, et à partir du moment où on avait ça, le national arriverait tout seul. C'était un... Voilà. C'était le constat, mais n'empêche, mais ouais. c'est assez vrai. Moi, j'ai pu le constater avec les compagnies avec lesquelles je travaille, de cette histoire de renommée, de si ouais. on est allé à l'international, on a un autre regard porté par les structures en France.
Après, moi, et par les institutions. Avec une compagnie qui fonctionne à l'international et pas en France.
Pas du tout.
Et après, de plusieurs années maintenant, elle a les deux. Je travaille comme interprète dans cette compagnie.
Et la passerelle pour venir en France, comment ça s'est...
Ben parce qu'après, il y avait beaucoup d'internationales, donc ça s'est répercuté au final.
Donc tu as vu le phénomène de répercussion Ça s'est répercuté parce que ça jouait à l'international.
Ben, à un moment donné, oui, je pense qu'il y a eu un... Ouais. Ben alors que le réseau français n'était pas
développé. Est-ce que aussi pour aller à l'international, en général, on a d'abord une...
Tu peux te présenter, tu t'es pas présenté.
Florence Chirel, ministre de production, je travaille avec notamment avec Sylvie Angelas et avec votre compagnie. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Oui, à part peut-être certaines productions où justement ça tient dans une valise, globalement, aller s'exporter à l'international, par exemple avec la compagnie Décalée, on était à Taïwan fin août, le décor il n'est pas encore retenu, il est encore sur les mers, il y a une tonne de décors en transité entre Taïwan et France. Du coup, ça veut dire que ça réussisse, et ben, il a fallu une aide aussi de spectacles de Bretagne, de l'Institut voilà. français. Donc du coup, vous êtes en train de travailler justement avec des gens qui ont quand même aussi un rayonnement, et puis, du coup, ben, vous passez petit à petit certaines portes qui peuvent vous en ouvrir d'autres derrière. Mais c'est sûr, par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Ouais, et c'est ça qui est intéressant aussi avec Yael aussi, c'est qu'on se rend compte quand même que l'ambassade d'Israël un peu partout, enfin je veux dire, c'est un réseau énorme partout dans le monde, et que la plupart du temps ils prennent quand même souvent en charge les transports, ils sont quand même aussi très efficaces là-dessus, et c'est une énorme aide en fait que de ne pas avoir à...
Oui, ça c'est quelque chose à... Je comprends pourquoi, et je comprends là, tu sais, c'est aussi... Mais choisir du support, pour moi ça change beaucoup, parce que many festivals ils pensent ok, il y a le support, on peut we can invite her, it's something very developed.
Oui.
Mais c'est tout. I think
like, ouais, mais quand même c'est énorme quoi, enfin je veux dire là.
Qui inspirait son mot. Alors je ne l'ai pas créé pour tourner à l'étranger, je l'ai créé pour parler de son enfant en dehors des codes de langage, puisque comme le spectacle a eu un succès, on commence à avoir des demandes à l'étranger. Et là par contre, on a un spectacle qui n'est pas très lourd, mais qui est très lourd pour l'étranger. C'est-à-dire un lieu. Et il a fallu encore faire un deuxième décor qui prend des. Voilà. Et là, on a les soutiens financiers, là, c'est quand même assez cool. Parce qu'il y a des. On commence.
C'est ça, la plupart du temps, c'est ça, c'est les transports qui bloquent.
Oui. Moi, je m'occupe de tous ces dossiers à l'international et c'est très clair qu'il y a un intérêt pour le spectacle. Tout se passe bien, c'est formidable, vous pouvez. Ah, vous avez quand même 5 malles de 400 kilos, est-ce que l'Institut français est... Alors là, on dit oui, mais on ne sait pas trop à quelle hauteur. Puis bah, souvent, on a quand même un peu moins que ce qu'on avait demandé. Et nous, c'est souvent là que ça capote en fait. Et on a aussi vu des décors bloqués en mer, mais c'est où. Donc, il y a déjà beaucoup de contraintes techniques, mais c'est vrai que ce soutien, alors que ce soit l'Institut français ou bien,
enfin,
quel que soit le.
Oui, des jumelages ou des choses. Mais,
il est vraiment nécessaire parce que sur les tournées à l'étranger, on décuple le transport, on se retrouve avec un budget artistique et un budget logistique.
Oui, il existe aussi des compagnies qui, par exemple, il n'est pas là, mais le polichineur de tiroir, je sais qu'il a son décor qui a été refait. Je crois qu'il en a 3 qui tournent. Il y en a un en Australie, genre un en Amérique du Sud, et puis un autre. Et du coup, hop, quand il va faire les tournées, quand il va les tourner, hop, il part de 100. Voilà, il y a la question de la reconstruction des fois qui se pose aussi.
Donc, il a peut-être envisagé vraiment les
tournées
à l'étranger dès le départ, mais
au départ,
pas du tout.
Voilà, c'est ça aussi.
Et là, on a simplement refait un décor.
Ouais.
Et parfois, cette notion de refaire le décor, c'est des fois les festivals, alors c'est parfois très complexe, surtout quand c'est des décors un peu particuliers, mais qui peuvent proposer de reconstruire une partie du décor.
Taïwan, il vous propose ça.
Ouais. Et c'est ce que vous avez fait, du coup, ou est-ce que...
Non, parce que du coup, c'était une petite bridouille, ça aurait été plus... Enfin, le décor en soi, il est relativement simple de face, et puis il y a tellement plein de petites choses à faire qu'il aurait fallu. Donc, ça aurait pris plus de temps à finir derrière. Mais en tout cas, je sais qu'il y a. Je ne sais plus quelle compagnie en Normandie qui est allée à l'édition d'avant, et il leur avait reconstruit une partie du décor parce que c'était faisable, mais c'était moins beaucoup de temps comme ça.
Pour le festival Tam Tam, je sais qu'ils proposent aussi cette possibilité-là de reconstruire. C'est vrai que. Peut-être d'autant plus dans des spectacles de marionnettes avec des dispositifs. On essaie quand même sur quelque chose.
Un collègue qui travaillait à un moment donné avec la Tropa, et en fait, il est accueilli par ses amis de Normandie. Et donc, lui, il est plutôt constructeur, etc. Et donc, il avait construit un décor, mais avec le constructeur décor du CDN. Donc, ouais. Il y avait en fait une partie. Enfin, ils l'ont fait ensemble. Et c'est ce qui avait permis, en fait, toutes ces petites finitions, tout était impeccable. Enfin, tout était comme ça devait être. Donc, il y avait aussi. Des fois, il y a des moyens aussi de faire venir le constructeur sur place, parce qu'en Chine, je ne sais pas, mais... Et donc, et après, de pouvoir faire...
Tout à fait.
Voilà, il y a aussi ça, enfin, moi, c'est tout. Et puis, pareil aussi, donc, on partait en tournée... En fait, on avait les marionnettes avec nous dans les valises. On avait le droit juste... On avait le droit à 2 slips et les marionnettes. Et obligatoirement, tout le monde de l'équipe prend les marionnettes. On était sûr que depuis qu'il arrive au décor, on avait au moins les marionnettes, parce que ça a refait.
Oui, c'est ça.
Que le décor, bon, c'était en double aussi, hein, en Amérique latine et en Europe, en France.
Ouais. Et est-ce que quelqu'un, donc là on est plus sur des choses de diffusion, de tournée, est-ce que y en a qui ont eu l'expérience sur de la partie de coproduction ou de montage de projets sur différents territoires, en France mais aussi avec d'autres pays, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu cette expérience là?
On est basé au Québec, dans une région assez éloignée, qui s'appelle Saguenay. Donc, on est en train, en fait, de faire... on vient de terminer une coproduction avec le Mexique. C'est une autre expérience, vraiment, pas seulement au niveau d'aller chercher du financement. Ça se fait relativement bien au Canada pour les coproductions, d'aller chercher du financement. Mais au niveau communication, au niveau culturel, c'est complètement un autre mode de création.
Et alors du coup, c'est une coproduction parce qu'il y a des acteurs, des marionnettistes mexicains ou des acteurs mexicains, ou c'est juste les partenaires qui sont mexicains?
C'est 3 marionnettistes mexicains.
D'accord.
Donc c'est Dani Lefrançois et moi qui faisaient la direction du projet, la mise en scène. Toute la production était prise en charge par le Mexique. Donc, faciliter beaucoup pour nous que toute la production se fasse sur place au Mexique. Et là, on est en train de préparer une deuxième coproduction avec la même équipe mexicaine, mais cette fois-ci qui va se faire au Canada. Donc, effectivement, on a créé le projet, mais là, on se rend compte de la difficulté de diffuser ce projet-là. Parce que les acteurs sont au Mexique, si on veut répéter, ils doivent répéter entre eux.
Et comment ça se réfléchit justement pour les tournées? Est-ce que c'est uniquement vous ou c'est aussi l'équipe du Mexique qui a soutenu le projet qui cherche à diffuser le spectacle?
Eux cherchent à diffuser au Mexique et nous, on cherche à diffuser pour la partie plus francophone, peut-être en France ou au Québec. Mais là, ça exige, on a le sous-texte en espagnol. Donc, pour la version française, il y a une traduction qui se fait en direct avec les acteurs. Donc là, ça multiplie l'équipe. Donc, c'est toutes des choses qu'au départ, on n'avait pas réfléchi. On allait faire un projet qui devait être spontané, qui devait jouer là-bas et puis... On n'avait pas pensé à la diffusion après.
Mais ça recoupe un peu ce que disait Stéphanie tout à l'heure sur cette idée de one shot, de projet un peu particulière. On monte le projet parce qu'il y a rencontre.
On avait fait un projet comme ça avec Taïwan aussi en 2007-2008, je crois, de 2007 à 2009, qui ressemble à ça, c'est-à-dire vraiment deux productions, une production française, une production taïwanaise. Bon, j'allais dire, c'est pas mal parce qu'on met nos moyens en commun, donc on cherche deux fois moins d'argent puisqu'on est deux fois plus à abonder dans le fond. Et puis en général, quand même, ça fait effet de levier, c'est-à-dire que quand on a une équipe comme ça à l'étranger qui collabore, tout d'un coup, les financements croisés sont plus faciles, c'est-à-dire qu'on a aussi la région, on a aussi la ville, tout ça se met un petit peu en branle. L'Institut français, et puis après, il y a des partenariats entre instituts, villes, bref, c'est vrai que ça fait effet de levier quand même. Il faut un peu tomber sur le bon pays au bon moment. Je me souviens que Taïwan, c'était la ville de Lyon, me dit ça tombe bien parce que justement, on veut développer le réseau économique là-bas, donc allez-y donc. C'était un peu ça. On est tombé au bon moment, C'est vrai que si on tombe au mauvais moment pour avoir bossé avec le Cameroun qui n'intéresse absolument personne, sauf M. Bolloré, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de coopération entre... elle est cachée. On l'a pas moins.
C'est ça.
Disons que c'est la France, voilà. On n'a pas de coopération. Mais enfin, c'est pour dire que c'est très politique quand même et que parfois on croise des intérêts économiques sans le savoir. Mais que quand on se retrouve à 17 sur un plateau, parce qu'il y a 6 Français, 6 Taïwanais, l'équipe technique, etc.,
forcément, d'emblée, c'est un peu compliqué, quoi.
D'emblée, c'est un peu... Et en même temps, c'est riche, quoi. Après, en fait, c'est pour ça qu'on le fait aussi.
Est-ce que tu dis du bon pays au bon moment, ça recoupe aussi tous ces programmes transversaux qui sont proposés avec les collectivités, parce qu'en fait, selon les régions, effectivement, il y a des dispositifs différents. C'est depuis 1995 qu'ils ont mis ça en place en lien avec l'Institut. Voilà. Oui. Et du coup,
c'est hyper aléatoire.
C'est différent, ça change.
De région en région, en pays, je sais pas, nous en Lorraine, on est jumelés, entre guillemets, jumelés avec la Bohème, des pays,
Il y a un moment, c'est quelque chose qui pose quand même énormément de questions, ce dont tu parles, c'est que doit-on penser à un projet artistique en fonction d'une opportunité de jumelage avec telle ou telle région
et de financement, concrètement,
et ça, c'est une vraie question, et ça rejoint vraiment la question du bon pays, du mauvais pays. Il me semble que ça part d'une rencontre, en tout cas, quand on est on n'est pas... Je ne parle pas de la diffusion d'un spectacle en France à l'étranger, mais d'une collaboration avec les étrangers. Nous, on travaille avec le Cambodge. Utile de vous dire que là-bas.
Tu es qui tu peux te présenter
sur le terme de la compagnie L'Aurore, qui est une compagnie de Gironde.
Quelle compagnie?
L'Aurore.
L'Aurore.
La compagnie de Gironde. Donc, on a un projet avec le Cambodge, avec une équipe artistique qu'on connaît depuis 4 ans maintenant, et cette fois sur un projet un peu plus ambitieux. Et là, c'est vraiment une production qui est portée à 100% par notre compagnie à nous, puisque là-bas, il n'y a aucun financement du parc pour rien. Et finalement, les quelques dates de représentation qu'on a trouvées là-bas, on les a trouvées par le réseau français là-bas, et une fois que la production a été assise ici en France. Voilà. Donc effectivement, je suppose que quand on travaille avec Taïwan, ou même avec le Mexique, ça se pose dans dans des dynamiques totalement différentes en termes de partenariat.
Et de moyens, ouais, c'est sûr.
Mais effectivement,
c'est le projet que tu sens qu'il peut tourner ensuite, ou c'est vraiment contextuel à ce projet de coopération en fait. Est-ce que les projets où il y a comme ça de pays qui se rencontrent après, globalement, ont tendance à beaucoup être diffusés, ou au contraire, ça reste vraiment sur un.
La question est ouverte parce qu'après il y a la question de la visibilité du spectacle une fois qu'il sera créé, puisque nos collègues étrangers, on peut les accueillir pour des raisons juridiques que 3 mois ici en France, toute la tournée est sur 3 mois, donc ça pose aussi cette question de visibilité. Donc ça, ce sera la surprise. En tout cas, voilà, c'est un spectacle qu'on envisage non pas dans l'objectif, c'est vraiment un spectacle qui naît de la rencontre entre cette compagnie et la nôtre. Et la question de la diffusion internationale, évidemment, elle est là, toute dans nos têtes, mais on ne l'a pas mis au centre, en fait, de notre réflexion, puisqu'on a décidé vraiment de partir de cette rencontre concrète, ce qu'on avait envie de faire ensemble. Donc, c'est pour ça, ça rebondit avec ce que je disais au début, sur la complexité de ces... Voilà, après, on regarde les programmes européens, et moi, je me dis, ben, pourquoi j'irais faire un projet avec Budapest
Mais alors après, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a, en effet, la nécessité artistique, parce que c'est une rencontre entre des équipes. Et puis, ça peut être aussi... Là, on parle vraiment de coproduction entre deux pays, deux compagnies, on va dire. Et puis, il y a aussi cette volonté d'une compagnie, par exemple, française, de tourner, enfin voilà, d'aller jouer à l'international, parce que souvent, c'est aussi... Il y a un spectacle, par exemple, qui a commencé à marcher à l'international, et peut-être après, alors que ce n'était pas prévu pour. Et peut-être, après, sur celle d'après, il y a pas mal de partenaires qui disent « Nous, on serait intéressés pour accueillir la suite. » Donc, peut-être, essayer de penser... Enfin, ouais, et du coup, la réflexion se fait déjà en interne dans la compagnie, de créer quelque chose calibré pour l'international avec des partenaires internationaux. Mais là, je ne parle plus d'artistique, je parle de coproducteurs, etc. C'est deux possibilités différentes, en fait.
Et ce que disait tout à l'heure Julio pour tirer mon dit, en disant, par exemple, il y a des spectacles visuels pour aller dans ce sens-là, c'est aussi revenir plutôt à cette notion-là, c'est l'artistique au sens, la notion de théâtre visuel n'est pas forcément pensée pour tourner à l'international. C'est aussi une volonté d'esthétique. Et ça tombe bien, effectivement, c'est beaucoup plus simple pour tourner à l'international.
Dans notre cas, par exemple, sur ce spectacle-là, on fera un spectacle sans parole. Mais ce sera un spectacle sans parole quand on a décidé de ça. On n'a pas décidé pour que ça puisse tourner à l'international. On l'a décidé parce qu'à un moment, ça s'est imposé artistiquement. Donc voilà, tant mieux, parce que peut-être que du coup, ça créera des opportunités. Mais c'est toujours complexe pour nous de... artiste, je pense, de faire le lien entre l'opportunité stratégique et puis le désir artistique. Ouais, c'est
complexe. C'est lié, pour dire un peu, c'est un peu lié. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de départ, mais que par exemple pour Madagascar, on va travailler à Diego Suarez par hasard. Donc, je regarde Diego Suarez, je vois Diego Suarez et il y a une coopération avec le Finistère. Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je connais des artistes italiens dans le Finistère? Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est clair que j'allais pas prendre un artiste de PACA. J'ai cherché dans le Finistère parce qu'il y avait une coopération. Et puis, on est super bien tombés. Mais c'est vrai qu'après, il y a un peu des petits études aux Belges qui marchent beaucoup avec les Belges, puisque les Belges, ils ont pas mal d'idées. Non, bah, bref. On va aussi un peu chercher là où on sait qu'on va pouvoir tirer des ficelles, même si c'est pas Taïwan. Moi, jamais, si on m'avait dit 2 ans avant que j'allais travailler avec Taïwan, je n'aurais pas cru. C'est un hasard le plus total, mais voilà. Après, il faut creuser un peu les petites ficelles. J'imagine qu'il y a des
ficelles.
On tire un peu des
ficelles. C'est pas un spectacle, c'est un projet. Peut-être que c'est pas la même approche. Parce que là, c'était rassembler plusieurs articles sur plusieurs articles sur les chantiers de la marionnette.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, on n'est peut-être pas dans le même rapport.
On aurait fait pareil pour un spectacle.
Pour un spectacle, oui.
Mais je pense que voilà, c'est pas du tout incompatible.
Non, c'est pas incompatible.
Effectivement, des fois, il y a des fils qui apparaissent, effectivement, il faut les tirer.
Oui. Bah, surtout s'il y a des super déjà connivences qui existent déjà avant.
Ouais, moi, je pense qu'il faut, au départ, ça part pour un rapport.
Oui, c'est ça.
C'est que pour les opportunités, ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est bien quand on.
Il y a les deux.
Les deux après, voilà.
Il y a les deux
mais
quand même.
Il faut faut avoir à la base une envie de partager, de découvrir, de voyager, d'accueillir aussi, parce que bon, là, on parle de nous partant, mais ce qui est sympa, c'est aussi d'accueillir.
Bah,
quand on a un festival, c'est très frustrant parce qu'on a envie d'accueillir le monde entier, mais de moins en moins, on peut le faire parce qu'on n'a quand même pas très aidé sur l'aspect international de nos festivals. Donc, c'est compliqué, ça aussi, de faire venir... les visas, c'est compliqué. Les faire venir des artistes africains, c'est une horreur. Enfin, ça n'aide pas la France à s'ouvrir à l'étranger.
Dans les deux sens.
Mais ça recoupe là, voilà, ces questions juridiques de 3 mois, ces questions. Enfin, voilà, il y a à la fois des questions de pour les spectacles et pour les artistes, ce qui sont pas les mêmes choses. Et voilà. Et après, nous, on est aussi confronté alors avec la compagnie Plexus Polaire, une ville aspéliée norvégienne. Mais la compagnie est basée en France, mais c'est clairement des productions sur les deux pays. Et se pose par exemple la question des normes qui ne sont pas les mêmes, des bases salariales qui ne sont pas les mêmes, et comment on harmonise tout ça, comment. Voilà.
Et,
on s'aligne sur l'équipe norvégienne, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire à une équipe vous allez être beaucoup moins payé, parce qu'effectivement les conditions de vie là-bas ne sont pas les mêmes.
Ah mais c'est intéressant cette question-là justement parce qu'en même temps en France il y a une intermittence. Enfin c'est aussi
et là-bas,
beaucoup, forcément,
pas ça
c'est ça.
Donc, en Norvège c'est une facturation et on paye directement l'artiste en somme fixe.
Okay. I want to say something and maybe you can translate
yes.
me so I sound more intelligent. So I would like to say something about the language.
Vous parlez du langage,
de la langue. Because it's a big issue, and also I feel
question, ouais.
Like in France also language is very it's a very dominant part sometimes in shows.
En France, c'est une partie assez prégnante et importante en fait.
And also when like when the first time I was invited to play in Charleville.
La première fois qu'elle a été invitée à jouer à Charleville.
Then I realized okay I have to make a French version.
Elle s'est rendue compte que vraiment il fallait qu'elle fasse une version française.
But I didn't speak any French.
Mais elle parlait pas français.
And yeah, you know, I learned it phonetically.
Voilà,
and
elle a appris de façon phonétique.
And I think like, but I don't know, you have to be kind of flexible in it and think about it in advance. But I think that really it's something, you know, to make an English version. You know, like if you're French and you want to make an English version, then you know, it depends of course on the show. But you know it's in your reach. You just have to give it really the attention.
Dans tes recherches, en fait, voilà, il faut donner la bonne attention.
Like it's something to work on really and to be creative also in the translation.
Et voilà, elle dit qu'il faut s'approprier en fait la traduction en tant que telle pour que ça corresponde au spectacle.
Yes, and I would like to say about that. It's very special to be in a room with people that are in the same. How do I put it in the valise? And how do I like the same things, you know, even if coming from different situation? And I think also it's kind of the same. It's kind you have to kind of figure, okay, you have the opportunity of a collaboration. And then, you know, to balance, okay, so what is this project for? Like if you have a big project in mind,
pas besoin de traduire, je pense.
With a big decor, and but maybe... It's not the offer that you have. Like maybe you have to, like I think that's something. Like for my experience, I have the show Paper Cut. C'est dans deux valises. It's really not. It breaks your back, but but that's the show. And another experience, totally different, with La Maison Près du Lac. We also came to Quebec, to Saguenay, in the winter. -37. And we have a big decor, I don't know, a big decor, and we are 7 people from Israel. And yes, you know.
Mais ça tourne.
Oui, ça tourne, but it was like everything you can imagine. On a expérience, you know, like, I think, you know, it could have also stopped touring, but one decision that we took, for example, was to say, okay, we will not play in Israel anymore. We will put the decor in France.
Ça, c'était une discussion, en effet, de mettre le décor en France pour pouvoir le faire tourner plus facilement aussi après en
and
Europe.
Yes, because like me, I really, like, I don't fall asleep at night because I think about how I put... Like even to bring what I'm doing now in Charleville,
how we put it in three suitcases, we've been working on it for
voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Ouais,
and every time we cut, and then we have to find, you know, it costs, it's much more expensive to make a light show, yes?
Voilà, elle dit que c'est vraiment beaucoup, enfin, ça coûte beaucoup plus cher de créer dès la base un spectacle facilement transportable, en fait.
But I think you have also, like, people that living in Europe, excusez-moi, people living in Europe, like, you have also l'avantage d'avoir, you know, like you can put things in a truck and you can.
Oui, c'est ça. Pas besoin du fret ou des. Voilà.
Yes, and that's amazing. That's amazing, and I think like yeah, it's. I think there are many many possibilities very very close to you. Like it's much. In a way.
En Europe, c'est beaucoup plus facile d'avoir des possibilités tout autour qu'en Israël, en effet. Ou,
yes, and I think it's very important. I think it's very, very important, even if you have a lot of work in France and maybe not enough time to tour, I don't know. But I think it's very important to go out and to meet other cultures and other festivals, and that's how you grow as creators, and you have to be inspired, and you have to meet other cultures. You can't stay like this. It's part of being an artist. And,
Tout le monde comprend, j'ai besoin de traduire. Ouais.
Et cette question du langage est assez centrale. Et en France, on n'est quand même pas sur un niveau d'anglais. Enfin, en tout cas, je me permets de le dire parce que c'est mon cas.
Non, mais c'est bien. C'est justement...
You can do it.
C'était un des partis pris.
Take English lessons.
Ouais, c'était un des partis pris aussi. C'était de se dire en effet que peut-être. Les Français, étant donné que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent très mal anglais, et ben les rencontres se font moins aussi peut-être parce qu'on n'ose pas aller parler anglais, que rencontrer les professionnels étrangers c'est pas si simple, et que du coup bah voilà, on a tendance aussi à rester franco-français. Ça peut être aussi une des explications quand même.
Et pour le mettre en scène, il y a des acteurs qui parlent anglais.
Oui, après, en effet, il existe. On va peut-être arriver à la question des dispositifs aussi un peu plus précise. C'est vrai qu'il y a plein de dispositifs qui existent après, qui ont été, enfin voilà, pour justement permettre au spectacle de tourner. C'est vrai qu'avec une autre compagnie avec laquelle je travaille, moi, la bande passante, qui a un spectacle, ben voilà, où Laurent joue dedans, qui est quand même un spectacle avec beaucoup de textes, quand même, mais c'est de l'objet et de la vidéo, etc. Et ben, nous, on est basé en Lorraine et on a été aidé par la scène nationale du Carreau à Forbach, qui est une scène vraiment à la frontière de l'Allemagne, et il y a des aides pour le surtitrage, pour des spectacles, et du coup on a bénéficié de cette aide qui a permis de traduire tout le spectacle en allemand via un surtitrage, et c'est vrai que ça nous permet a priori bah voilà, de pouvoir moi ça m'a permis de faire venir quelques personnes voilà, de l'Allemagne ou de la Suisse germanophone etc. pour commencer à ouvrir ailleurs quoi. Et que enfin c'est vrai que quand ça a été créé ce spectacle, je pense pas du tout que c'était pensé pour tourner à l'étranger. C'est un spectacle qui tourne en poids lourd, enfin c'est aussi quand même assez lourd etc. Mais quand même du coup des fois c'est l'opportunité qui fait que voilà, il y a ce dispositif qui existe, on dit eh ben, tiens finalement c'est vrai qu'en y réfléchissant on peut quand même rentrer dans cette possibilité là, et qu'un surtitrage est possible, ou il y a d'autres compagnies où là nous c'est un surtitrage avec du texte, mais ça peut être du doublage en direct, ça peut être remplacé un marionnettiste par justement en effet un comédien anglais ou voilà qui fait la version anglaise. Enfin, il y a plein de possibilités en fait.
Also,
quoi.
Sometimes you go. Now I was in Czechia and I saw the show of the Foreman Brothers and it's in Czech, but when they go to play in Denmark, they have a few days to rehearse with a Danish actor. And they train him, you know, it's some parts you can do it, or sometimes I've seen in Israel, they bring a show in, I don't know, Russian, whatever, and they find an actor, and you find a cool way to have someone else, you know, on stage. Like, it can be part of...
C'est ça, ça peut être mis en scène, en fait. Enfin, voilà, la traduction peut être mise en scène et intégrée au spectacle.
Yeah, and even sometimes, some shows, you can have four sentences in... Hebrew and then one in English and it still work, and if you do it while you create really. Now I saw another show of Petr Folman now in Czech Republic, and it was a show on stage. They spoke Czech, French and English en même temps, et tu peux comprendre tout le spectacle si tu parles seulement en langue. It was really very smart.
Et sur l'idée de comédiens qui peuvent changer, il y a par exemple l'exemple de la compagnie Philippe Gentil qui a fait un spectacle où il y a vraiment deux équipes différentes. C'est les deux spectacles peuvent tourner en même temps, du coup. Mais il y a une équipe française et une équipe espagnole. L'Appel du Large, la Yamada Del Mar. Et voilà.
Mais ça, pour le coup, ça demande beaucoup de
moyens. Ah oui. Ah oui. Mais après, c'est vrai qu'il y avait une réelle demande sur des pays en Espagne. Et voilà.
Coup, ça je pense que l'histoire de... J'ai travaillé avec une gentille il y a 20 ans, mais l'expérience de Philippe est intéressante pour ça aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure du fait d'être reconnu à l'étranger avant de les films qui lui est arrivé, c'est qu'en France, globalement, le milieu des marionnettistes ne venait pas, le milieu du théâtre ne venait pas, le milieu de la danse ne venait pas. C'était dans cette époque-là. Globalement, on disait, mais c'est qui ce type-là, il fait quoi? Pas dans les temps du festival de marionnettes, les gens nous disaient, non, mais c'est pas de la marionnette, c'est pas... Voilà, il y a eu une époque bizarre. De son lieu de départ, il a fait son fameux tour du monde avec une marionnette. Et en fait, il a fait un réseau à l'étranger avant de faire un réseau en France.
Oui, bah, c'est un peu... Non, mais c'est intéressant, justement, c'est le cas par exemple aussi de Gisèle Vienne, qui a été très reconnue à l'étranger suite à sa sortie de Charleville et qui s'est créé un réseau en France après seulement, quoi, et qui tourne dans des lieux super pointus seulement en France.
Après, c'est sur il y a des endroits où il est soutenu partout.
Et après, il y a aussi une démarche très différente, c'est que par exemple, la compagnie Philippe Gentil, je sais qu'elle intervient à l'étranger sur des marchés du spectacle. Voilà. Sur des plateformes de présentation qui est quelque chose je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent ce genre de rencontre, mais c'est quand même très particulier et on a moins ces dispositifs-là n'existant pas vraiment en France,
cette culture-là
marché vraiment de voilà, c'est un peu
la bourse Rideau existe par exemple ou des choses comme ça, ouais.
Est-ce qu'on se sent d'y aller, est-ce que comment on y va, c'est...
Est-ce que vous avez déjà participé, vous, à des bourses comme ça, enfin des marchés
Oui, la bourse Rideau.
Ouais, c'est ça, la bourse Rideau. Peut-être.
Presque à chaque édition, on essaie de s'inscrire.
Tu peux essayer d'expliquer, comme ça permettrait de...
En fait, c'est le réseau indépendant des diffuseurs qui s'organise un salon. Donc, ça regroupe tous les réseaux de diffusion de Québec. À chaque année, il y a une semaine où il y a des vitrines qui sont présentées, des vitrines soit de 20 minutes ou des vitrines complètes de spectacles. Mais c'est vraiment un marché de tout. Là. On a de l'humour, il y a de la musique, un peu de théâtre.
Et très peu de marionnettes.
Et les répercussions et la place là-dedans, comment les répercussions de ces rencontres, comment ça se...
Beaucoup de gens y vont, c'est...
Mais en fait, au Québec, il faut être là, il faut y aller, parce que c'est là que les rencontres se font. Après, ça peut être très bon, comme ça peut ne rien donner aussi. Mais il y a plusieurs compagnies, c'est possible pour des compagnies internationales de venir présenter.
Et du coup, là, toutes les compagnies peuvent venir présenter. C'est, comment ça se passe? C'est payant? C'est sur sélection?
C'est sur sélection.
Ah, c'est sur sélection quand même.
Et c'est assez cher.
D'accord. Parce que justement, je trouve...
Il y a des stands aussi, des stands où les gens peuvent présenter.
C'est ça.
En fait, un peu comme au Bouddhiste, par
exemple. Ouais.
Et il y a vraiment d'autres moi, j'étais là en février. Et il y a un côté très décomplexé par rapport, en France, on n'est pas dans du marché, on est dans de l'artistique.
C'est intéressant.
Ça ressemble au festival d'Avignon.
Justement, c'est vachement intéressant.
Mais du coup, il y a une espèce de chose qui est décomplexée. Il y a vraiment, c'est un marché avec des showcases. Et du coup, les spectacles, alors après, c'est particulier. Par exemple, moi, français, je n'avais pas l'habitude de voir 20 minutes d'un spectacle, un bout, pas le début, pas la fin, tout ça. Mais en tout cas, le but, c'est dans une soirée, vous avez une heure, on vous présente trois bouts de spectacle qui s'enchaînent, marionnettes, conte humour et puis peut-être musique. Et le but étant de vous présenter et que les gens, si ça les intéresse, il y a quelqu'un au micro qui dit rendez-vous stand 45.
Oui, mais...
Mais 20 minutes, c'est 10 minutes à garder. 20 minutes, à peu près. Mais du coup, après, les gens sont pas en train de se tourner autour pendant une demi-heure pour savoir qui est qui. Il y a le badge, il y a le code rouleur, salut, je suis programmateur.
C'est la question de la visibilité. La question de la visibilité est super intéressante, en fait, parce que c'est vrai que quelles sont les opportunités pour une compagnie de présenter face à un parterre de programmateurs internationaux, ou il y en a pas tant que ça. Enfin, en tout cas, si on reste en France ou en Europe, bon, on a le festival de Charleville. On a la Biennale internationale de la marionnette. Enfin, je parle de la marionnette, là, pour le coup. Le festival d'Avignon, qui reste quand même aussi ouvert. Mais il n'y a pas non plus tant de lieux, d'opportunités qui permettent ça. Et c'est intéressant, en effet, de voir d'autres formes.
Mais après, c'est véritablement des moments leviers. Quand tu parlais de buzz tout à l'heure, je pense vraiment que c'est quelque chose qui arrive. Je ne sais pas si pour toi, à partir du moment où ça a commencé, c'est allé assez vite ces ouvertures.
It's mais... really like, and then you know, like it opens, and it takes time. Like I find that really it takes like between 1 and 2 years after you have it, like to get rolling, because you know it with the. But also, you know, you kind of have to be focused on, like, I always say that paper cut, you know, that I'm playing a secretary, it turned me into a secretary. Because at first, before, I was working also with Claire and Babette, then you know, and still, even when you have people working with you for the diffusion, it's still like you think, ah, I will be liberated from this part, mais non.
Elle a raison, non, mais ça c'est bien.
And then you really have to take into consideration, this is one thing that's very, it can take you away from the creation, or it can put the creation on pause, but it's also something, it's an investment.
Yes?
And like, you know a company, yeah. If you think of a company that you like the work, and you like how they work, and na-na-na, and you go on their website, sorry, I say it very like...
No, c'est bien.
But you go on the website and you're like, oh, okay, they play there. You look at the festival, you write to the festival. Like, I know many of you probably already in a level with a circuit of connections, but it's good also to refresh, you know, like not to be... Like, if you are aspiring to go, you know, like, with other countries, other cultures... Then you have to give that also space, like to look.
C'est important en fait. Hein, ce qu'elle dit, c'est ça. C'est ce qui est super. En effet, c'est que même si à un moment donné on s'entoure d'autres collaborateurs en diffusion, enfin là je parle en tant qu'artiste, c'est quand même important. Et je veux dire, le moteur reste l'artiste pour trouver d'autres collaborations, des partenariats. Et c'est vrai qu'il faut jamais lâcher cette partie-là.
Website.
Et après, il y a la quand tu parles de festival, il y a aussi cette notion de festival de marionnettes où effectivement ça brasse vraiment. Et est-ce que parce que là on a plus le rapport des compagnies, mais est-ce que des gens qui en France ont des théâtres, enfin des programmateurs français, de quelle manière ils sont présents sur les festivals à l'international? Parce que on voit aussi ça. Alors avec Plexus Polaire, on a la chance d'avoir quand même pas mal de dates à l'étranger, mais qu'on n'a pas forcément cherché, qui viennent. Et en fait, c'est beaucoup parce que les programmateurs à l'international, ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'ils se déplacent beaucoup dans plein de pays. Il y en a certains qui nous disent « Ah non, je ne peux pas venir en Allemagne, bon, je viendrai peut-être sur la date en Norvège. » Bon, d'accord. Et est-ce qu'il y a cette démarche-là en France? Enfin, voilà, c'est peut-être vu que nous, on a peut-être plus de difficultés dans ce sens-là, c'est aussi... C'est pas que au niveau des compagnies.
Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. En effet, c'est vrai qu'il y a peu de programmateurs, je crois, qui se déplacent vraiment dans le monde entier, à part quand il y a des voyages de repérage de l'ONDA. Enfin, voilà, on sait bien que là, voilà, il y en a eu, je sais plus, l'année dernière en Amérique du Sud, où il y a pas mal de gens qui sont partis. Mais sinon, ça reste quand même plutôt cantonné à l'Europe, j'ai l'impression. Et après, en effet, c'est vrai qu'il y a des petits réseaux, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a, je sais pas, moi, une scène conventionnée de marionnettes qui est copain avec le festival du Magdebourg, qui va lui dire, oh, bah voilà, je te conseille ce spectacle-là. Enfin, il y a un petit peu des. Et c'est vrai que les lieux en France, enfin, notamment, enfin, voilà, tout le réseau marionnette est un peu ambassadeur de certains spectacles en France. Maintenant, il y a aussi en France un conseiller de l'ONDA qui est, enfin, voilà, qui est référent marionnette. Ça avance petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a encore très peu de... Enfin, c'est vrai qu'ils ne se déplacent plus à l'international.
Par exemple, ce que j'ai constaté dans d'autres pays à l'étranger, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui sont des agents et qui sont en freelance et qui vont faire du repérage. Et des conseillers artistiques de scène nationale, de festivals, des choses comme ça. Ils se déplacent énormément justement dans le monde et ils deviennent quelque part une sorte de conseiller d'expertise artistique sur ah bah tiens, j'ai repéré telle compagnie dans tel endroit et ensuite prennent par exemple une commission en ayant recommandé telle compagnie de tel pays à tel programmateur, programmatrice ou directeur, directrice de tel.
Ah ouais.
Il y a les représentants d'UNIMA aussi qui font ce travail-là parfois. Nous, on était. En République tchèque, c'est parce qu'on avait été repéré par
un
tchèque qui a parlé nous là-bas. Donc, ces représentants-là peuvent être des bons ambassadeurs pour les compagnies.
Mais le souci, c'est toujours la même chose, hein, c'est qu'après, il faut aussi payer les voyages à l'étranger. Et en tant qu'organisatrice de festival, moi, j'adorerais montrer des choses que personne n'a jamais vues avant. Mais pour ça, il faut bouger. Voilà, il y a plein de festivals extraordinaires partout dans le monde entier. On reçoit les infos, on voit des programmes sublimes. Mais on ne peut juste pas y aller.
Ça coûte des sous.
Et c'est vrai que l'UNIMA fait quand même du travail intéressant. Et puis, ils organisent, alors c'est pas régulier, mais tous les deux ans, trois ans, il y a un petit réseau qui s'est mis en place qui est... qui a été initié par Annette Dabs, enfin, je ne sais pas si il y a quelqu'un d'UNIMA ici, mais qui réunit tous les directeurs de festivals du monde entier. Et donc, j'ai participé à ces rencontres deux fois, et c'est génial, parce que du coup, on a à la même table celui qui vient du Kenya, celui qui vient de République tchèque, celui qui vient de Chine, celui qui vient du Japon, etc. Et ça, c'est vraiment formidable, parce qu'on gagne un temps fou, et puis on se donne des infos, et puis on se connaît surtout, on apprend à se connaître et à savoir comment on programme. Et ça, c'est vraiment intéressant, et c'est l'UNIMA qui organise ça. Et en dehors de l'UNIMA, je ne vois pas qui pourrait faire ce genre de choses. Hormis les rencontres organisées au sein de ces festivals internationaux, parce qu'il y a quand même pas mal de rencontres, il y a moyen quand même de rencontrer le monde ici, là.
C'est ça. C'est pour ça qu'on a proposé cette réunion autour de la production internationale ici. C'est que c'est quand même aussi l'endroit.
Il y a beaucoup de choses. Il y a les villes, la ville de la marionnette.
Il y a plein de réseaux.
C'est vrai que la marionnette, quand même, c'est un monde de réseaux, la marionnette. Depuis toujours, c'est pour savoir ce que c'est l'histoire de ce festival, après tout, en fait, hein, international. C'est l'histoire de Charleville. Pourquoi le monde de la marionnette est à Charleville. C'est bien parce qu'il y a des gens qui ont eu envie à un moment donné de tisser des liens avec d'autres pays, de l'autre côté d'un mur.
Je vous guette, il est 30.
Et du coup, alors, sur tous ces dispositifs-là, il y a des choses qu'on a abordées. Donc, effectivement, il y a pas mal d'aide à la diffusion, donc pour les surtitrages, pour le transport. Il y a juste aussi cette chose-là qui peut être intéressante, alors qui est à la fois pour des compagnies, mais aussi pour des structures, de formation. Il y a quand même pas mal d'organismes qui travaillent pour diffuser ces informations-là, parce qu'aussi, on a beaucoup... Enfin, à mon sens, il y a un manque d'information. Où est-ce qu'on...
D'accès à l'information.
D'accès à l'information. Où est-ce qu'on retrouve vraiment centraliser tous ces éléments. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup aussi de guetter ces différentes formations.
C'est ça, il y a la Belle Ouvrage notamment qui propose une formation qui est assez intéressante, mais là c'est plus diffusion, mais c'est diffusion à l'international. Enfin voilà, il y a aussi des questions quand même super intéressantes. Et nous, ce qu'on se proposait aussi avec Sarah par rapport à ça, pour peut-être faire continuer pour ceux qui sont intéressés par ces problématiques-là, c'était, on aurait bien aimé, parce que justement cette question de l'accès à l'information, elle est compliquée, et c'est souvent aussi pour ça que des fois les choses se font pas, ou trop tard parce qu'on a raté la date délai, il y a plein de dispositifs, etc. C'était peut-être se constituer un petit groupe pour essayer d'un peu recenser tous les différents dispositifs existants, essayer de trouver des ressources peut-être qu'on pourrait mettre au sein de Théma, pour que tout le monde puisse y avoir accès, après tout, et puis travailler certainement pour organiser quelque chose d'un peu plus vaste et construit après, un BABA de la production internationale, en fait, l'année d'après, pour continuer à travailler ces problématiques, en fait. Donc après, ce qu'on propose, c'est ça, c'est peut-être que vous venez nous voir.
Si juste... ça intéresse.
Voilà, s'il y en a que ça intéresse de travailler sur ces sujets-là, parce que de toute façon, elles sont déjà là-dessus, n'hésitez pas. Voilà.
D'autant que ça dépend des régions. Hein.
C'est pour ça
qu'on peut avoir des spécialistes des Balkans, des spécialistes du Sud, des spécialistes de...
C'est tellement vaste.
On avait invité Vanessa Sylvie et finalement elle n'est pas venue. Vanessa Sylvie, c'est la responsable, notamment marionnette à l'Institut français. Ça aurait été intéressant de la voir justement pour parler des dispositifs existants aussi au sein de l'Institut français, qui se réduisent comme peau de chagrin. Mais il y a ça, et puis en effet, il y a une autre personne qui est spécialiste vraiment des jumelages. Enfin voilà, en effet, de ce qu'on appelle ce fameux jumelage, je ne sais pas moi, entre la Lorraine et la Bohème du Sud, ou le Finistère et puis une partie de l'Afrique. Et donc ça, je trouve que c'était intéressant, en effet, que tout le monde puisse avoir accès pareillement à l'information. Parce que c'est souvent un frein aussi.
Ça, c'est un gros mot, parce qu'il y a toutes les fondations aussi qui...
On en parlait justement,
Il y a pas mal de formations, alors sur Europe, Balkans, vraiment ciblées souvent.
Oui.
Mais il y en a plein.
Méditerranéen, c'est vrai que c'est un
peu de... Mais justement, si on est tous... s'il y a un petit groupe qui se forme là-dessus, ça peut être super intéressant.
Et l'idée, c'était pas de faire, de vraiment lister tous les réseaux, c'était plus de voir les dispositifs, et après, chacun s'en empare. Voilà. Mais de nourrir à plusieurs.
C'est vrai que j'ai l'impression que l'international, souvent, enfin, globalement, je pense que quand on est artiste, je pourrais parler à la place d'un artiste, mais il y a envie de faire voir son travail à l'extérieur et aller voir comment les autres créent tout ça. C'est vrai que c'est un investissement énorme en termes de moyens financiers, de moyens humains et de moyens matériels. C'est vrai que d'aller faire justement, c'est quelque part quand même plus simple d'aller tourner à 30 km de chez soi que d'aller envoyer, parce qu'en termes logistiques, aller envoyer une tonne de décors au bout du monde, les autorisations. Les visas, les j'en passe, les voiles et tout ça, les carnets ATA, CPD, tout ça. Il faut avoir envie aussi de porter ça, il faut avoir quelqu'un aussi au sein de la compagnie qui est capable de coordonner ça.
Oui, c'est tout un dispositif administratif derrière, en effet.
Mais voilà, c'est ça, mais... Il ne suffit pas de dire, ah, ça y est, je veux partir.
Mais en même temps, moi, ce que j'entends, tu vois, des autres expériences, c'est vrai que nous, on parle d'envie, mais il y en a certains qui, enfin, dans d'autres pays, c'est du besoin. C'est-à-dire que de toute façon, c'est ça, c'est intéressant aussi quand même, quand, en effet, de se dire... que du coup, tu te laisses pas le choix.
Et puis, c'est peut-être pas que créer un spectacle étranger. Enfin, c'est peut-être pas que diffuser, c'est peut-être aussi de la formation, de la rencontre, du laboratoire. Ça peut aussi être ça, en fait.
Oui, puis on se disait ça aussi, c'est vrai que c'est une question de culture aussi, de pourquoi tu tournes dans certains pays ou pas, parce que aussi il y a des choses qui font écho ou pas en fonction des pays, et ça c'est génial aussi.
On a bien pensé Budapest, c'est pas son
truc. Ouais, c'est ça. Plus Cambodge que Budapest de ce côté-là.
Et puis il y a aussi, moi j'ai eu une fois cet écho-là avec le spectacle Palagi, la compagnie des singes voleurs, qui me racontait son expérience où ils ont pas mal tourné en Amérique du Sud. Et au retour, c'était de dire, en fait, on n'a plus vraiment envie de jouer en France parce que le rapport au public est tellement différent. Et ben voilà, qu'on va travailler en ce sens-là parce que les gens, ils sont pas à l'arrière de leur siège comme ça, ils sont devant et voilà. Et du coup, ça peut être une envie.
Nous, on a commencé à travailler à l'étranger, de vraiment de notre propre initiative sur un projet. Cette fois, on était très très peu soutenus pour ça. Parce qu'il y a un moment où ça faisait 10 ans qu'on faisait ce métier, etc. Et il y a un moment où on a voulu re-questionner parce qu'on avait la sensation qu'il y avait beaucoup de choses figées et on était curieux de voir quelle était la place du spectacle dans les autres cultures et comment les gens regardaient les spectacles et comment les acteurs faisaient des spectacles. Et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de bien de prendre un peu de distance sur ces pratiques. Hein. Puis c'est sûr que au Cambodge ou
sur les codes,
Togo,
sur...
tout ça, c'est pas tout à fait pareil.
Non, pas tout à fait.
Et après, est-ce que justement sur ces choses de différence de culture, comment, en fonction du spectacle, comment c'est possible ou non de les amener dans certains pays, en fonction de ce qui est de la thématique. Enfin voilà, il peut y avoir aussi cette question-là.
Oui.
Est-ce que vous avez des choses à... des questions des...
Zombie. Ouais, c'est ça, n'hésitez pas.
Moi, j'aurais bien pu rajouter une des contraintes, en tout cas à laquelle je suis confrontée, c'est en fait le prix de mon spectacle par rapport au prix qu'on pratique en France. Et du coup, comme on a envie d'avoir une journée conséquente à l'étranger, mais à un même prix, c'est souvent compliqué. Donc, j'ai pas du tout de réponse à donner, mais je sais, voilà, c'est une des choses moi, qui me.
Faut aller en Suisse. Ouais, la Suisse, c'est le seul pays où les gens m'ont dit une fois, mais c'est vraiment pas cher vos spectacles.
Non, mais
ce qui est intéressant, par contre, c'est vrai que là on parlait des réseaux d'instituts français. Pour le coup, je pense que c'est vraiment une question aussi de mélanger les différents réseaux. C'est-à-dire que moi j'avais organisé par exemple une tournée en Afrique. Et que c'est vrai que là-bas, je veux dire, tu vas jouer dans un festival, il y a zéro thune. Enfin, je veux dire, c'est aussi, mais en même temps, c'est justement, c'est cette fameuse rencontre avec le public, c'est partager autre chose, quoi. Et donc, on avait mixé ça avec des dates dans les centres culturels français. Bon, ça c'était bien, enfin parce que ça s'était bien goupillé et ça permettait justement, tu vois, de trouver un équilibre, qui faisait que tu pouvais faire des dates gratos, des ateliers gratos, mais par contre, en échange, tu avais aussi compensé par des dates qui étaient achetées correctement dans les instituts, quoi.
Il y avait un dossier là-dessus dans la scène il y a quelques mois qui justement disait clairement ça, que c'était intéressant en fait de vraiment casser les prix, hein. Et parce que
en fait, faut-il
pouvoir faire, mais même avec l'institut français, nous le spectacle qu'on va faire, on l'a vendu à l'institut français 50% moins cher.
Oui.
Ça dépend beaucoup des instituts.
C'est ça.
C'est ça, il faut un peu tout remettre à zéro sur certains points. Et aussi, pour des questions de calendrier, on n'est pas sur les mêmes fonctionnements.
Non.
Parfois, on est sollicité trois mois avant une date de représentation, mais c'est normal. C'est est-ce que vous pouvez jouer dans trois mois voilà, c'est aussi comment... Et que le contrat, il est signé le jour où on va prendre l'avion. Voilà, c'est...
Voilà, le jour après. Le jour après, c'est ça, trop tard.
À chaque fois, c'est
très
gros risque, quand tu penses à une journée, tout ça, comme tu dis, tu sais pas, est-ce que finalement, à bout de la tournée, on va recevoir le cachet,
Est-ce que le décor va revenir,
le visa.
faut vouloir prendre ces risques-là, c'est pas tout le monde qui est capable ou qui a l'envie de se mettre dans cette position.
C'est à la fois une ouverture et à la fois des défis. Enfin, voilà, il y a un peu...
Oui, voilà. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure à la question du public, c'est qu'à partir du moment aussi où on va à l'étranger, qu'on a des aides, on va associer dans un certain réseau, et du coup, quel public aussi on rencontre là-bas? Parce que par exemple, on a été joué en Nouvelle-Calédonie au Centre culturel Jibao. Voilà, dans une démarche en plus par rapport au Kazakh et tout ça. Clairement, on n'était avec aucun public d'expat.
À partir de blanc,
Donc c'était magnifique, on a traversé le monde, la Calédonie, c'était génial. Mais concrètement, il n'y avait pas un Kazakh dans la salle.
D'où l'intérêt, en effet, de rebondir et d'en profiter pour étouffer la tournée avec les festivals autour. Quoi. C'est vrai que dans ces cas-là, quand tu as des pistes comme ça, c'est. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais.
Mais effectivement, quel public tu vas rencontrer là? Parce que c'est public justement d'expat français qui sont en lien justement avec les alliances françaises, tout ça, et du coup c'est un microcosme qui se reconstruit en fait à l'étranger. Donc finalement, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, quoi.
C'est ça.
Tu pensais aller rencontrer un serveur en ligne et finalement tu retrouves potentiellement le même.
En pire.
Mais des associations, quoi.
C'est ça.
Mais c'est rare quand même les associations. En général, ils demandent aux compagnies d'aller dans les écoles, d'aller dans les assos locales.
Ah ouais.
Ça ne nous est jamais arrivé de tout faire comme ça dans un module d'expatriés. C'est bizarre, ça, oui.
Ah, quand même, hein. Ah, si, moi, on l'a eu aussi, ça.
Je pense que ça dépend vraiment des instituts.
Ouais.
Il y a des bons directeurs et des moins bons.
Mais je pense qu'il faut, effectivement, citer directement la faune après, c'est que s'il n'y a pas ce travail, justement, sur le territoire, il faut être déjà en train de penser, de demander au moment, justement, pour que ça ne soit pas uniquement de la diffusion, ce qui est gênant, mais qu'il y ait vraiment peut-être un gros travail de coopération.
Mais c'est. Ouais, ça dépend vraiment des instituts. Nous, c'est vrai qu'on avait fait toute une tournée en Afrique de l'Ouest et il y avait. Des fois, alors déjà, d'une, il y avait des centres culturels français et des centres culturels, par exemple, on avait un centre culturel, qu'est-ce qu'il y avait, franco-béninois, enfin, je veux dire, déjà, l'intitulé dit bien la chose, quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste la France qui impose son truc, ou sinon, c'est déjà une vraie collaboration. On avait demandé... Merci à elle.
De revenir en fait dans certains pays où des fois il y a un passé colonial et de revenir en disant voilà ce qu'est la culture française, voilà ce que doit être quelque part la culture et une manière de réinventer
les objectifs de l'Institut français.
C'est ça, hein, c'est le rayonnement de la France.
Mais c'est pas anodin.
Ah ouais,
ça double.
Merci à vous d'être intelligent, de trouver les collaborations comme tu disais. Là, on a une accroche avec l'Institut français, on va pouvoir faire un travail avec eux. Et on profite de ce pied-là pour mettre un autre pied un peu plus dans la réalité, si on en a envie, bien entendu. Mais,
si on en a le temps aussi. Ouais.
Voilà, par exemple, nous, on a fait un travail avec le lycée français, parce qu'il y a aussi tout le réseau des lycées français à l'étranger, qui est un réseau intéressant pour ceux qui travaillent sur le jeune public, parce qu'ils ont quand même de l'argent, beaucoup plus que l'Institut français. Et par exemple, on est allé jouer un spectacle pour le lycée français d'Alicante, donc c'est pas très loin, tout ça. Et on a fait une collaboration, du coup, avec un festival de là-bas, par le biais de l'Institut français. Donc on a joué le matin en français pour les élèves de l'Institut français, et le soir en espagnol, pour le public du festival d'Alicante. Et donc je pense qu'il y a aussi des moyens, une fois qu'on a d'arriver à créer, la deuxième fois, tu joues plus ou moins gratuitement, mais... voilà.
Et sur cette diversité des publics, est-ce que pour les projets avec le Mexique, du coup, sur la partie que eux organisent sur les tournées, du coup, pour ce qui se passe au Mexique, est-ce que du coup, c'est beaucoup plus large comme lieu de diffusion, comme possibilité qu'est-ce que vous avez
C'est beaucoup moins organisé. Il y a moins de réseaux, il y a moins de. Il y a des gens qui diffusent, mais ça se fait vraiment personne à personne. C'est pour ça que le fait de travailler avec une compagnie mexicaine, eux ont beaucoup plus la possibilité de faire tourner un spectacle au Mexique que nous, Québécois. Au Mexique, c'est extrêmement difficile d'aller. Il faudrait aller cogner à chaque porte. Une à une pour arriver à trouver des opportunités.
Mais... c'est ça qui est compliqué avec le Mexique, c'est qu'à la fois on a. C'est génial parce qu'on se pointe là-bas et 10 jours après on peut avoir une super opportunité, mais on s'y est pointé comme ça. Et on est super surpris parce qu'en France il faut faire un dossier un an et demi, 2 ans avant. Ouais. Et là on arrive par là par hasard et puis tu viens la semaine prochaine, tu fais un stage. Ah ouais. Ça m'est arrivé.
C'est beaucoup plus spontané.
Ouais, j'étais en vacances. Après, j'y allais avec l'intention. J'y allais avec une intention plutôt de ressources iconographiques et tout ça par rapport à un projet, mais c'était ma sauce. J'y allais de façon perso. J'avais 2-3 contacts, j'ai rencontré. Et elle m'a dit bah, si tu veux, dans 15 jours tu reviens, je te trouve si tu veux combien, je te file la salle, les stagiaires. Et j'ai fait un stage d'une semaine, et l'année d'après, j'ai donné un stage de 15 jours, et j'ai joué 3 fois. Et là, l'Institut participait. Et du coup, ça a été génial d'être confrontée à ça, parce que j'y suis allée spontanément, avec mes thunes, perso. C'était du plaisir, et c'est du plaisir. Bon, c'était pas du boulot pendant les vacances. Et finalement, c'était super, et puis ça a donné des choses ensuite. Et voilà, moi, j'ai aimé ça par rapport aussi à quelque chose en France. Où effectivement il y a des dispositifs, effectivement il faut faire des dossiers, effectivement il faut avoir l'équipe qui nous accompagne en France dans nos compagnies pour pouvoir le faire. Moi à l'origine j'étais toute seule, c'est plus le cas maintenant. mais là c'était super d'avoir tout de suite un rebond et une envie en face et ça s'est fait comme ça.
Quoi. Un peu de spontanéité quoi.
Ouais. Ça aussi ça
nous fait. Ça n'existe pas en France.
Mais ça c'est ça qui est intéressant. En effet c'est vrai que tout prend tout de suite des plombes et qu'il y a vraiment une culture de la bureaucratie et que c'est vrai que ouais, voilà pour être aidé par l'Institut français c'est tout de suite des dossiers. Mais alors maintenant en ligne il faut pas rater la date et il faut toutes les pièces etc. C'est vrai que bon. C'est aussi en effet, enfin voilà, il faut être outillé pour.
Oui, bah, du coup, j'ai une expérience qui va dans le sens, c'est un spectacle très léger, on est deux, il y a 2 valises, et en fait, on était invité à jouer au Festival d'Animation, et la proposition, c'était 3 mois avant la date. Donc, on s'est débrouillé pour dégager le planning, il y avait vu. J'ai fait une demande à l'Institut français, c'était pile le jour où il fallait le rendre, mais en fait, ils m'ont répondu 8 mois après, et entre temps, enfin, du coup.
8 mois après.
Ce décalage énorme a fait que le monde a réussi à aller, parce que là, pour le groupe, on ne peut pas avancer là-dedans, même si on est d'avant, on ne peut pas. Mais du coup, c'est hyper frustrant de se dire que c'est forcément la réalité sur le moment et spontané, et la bureaucratie, l'administration. Du coup, alors après, je m'y prends, on dit, bon, peut-être l'année prochaine, on va retourner, maintenant que l'Institut français est un peu avec nous. Sauf que, bon, le Festival de Burkina, dans un an, on ne sait pas si.
Allez au bout pour 2017, ouais.
C'est là, du coup, c'est des délais très courts. C'est là que nous, du Bouffe Théâtre, donc en Bretagne. Et c'est vrai que ce spectacle en Bretagne, ils font des dossiers par trimestre. Et ça, c'est
top. Hein.
Mais du coup, c'est vrai que ça, c'était super. Parce que justement, à l'Institut, on ne peut pas. Et là, tout d'un coup, on a une proposition, ok, on fait la demande. Et dans le trimestre. Donc ça s'adapte vraiment à la question de la réalité. Il y a des questions qui existent. Il faut faire un
choix. C'est vraiment un choix. Mais juste dire, quand
je connais pas les tutelles, même si vous voulez. Oui, celui-là, il est vraiment. Enfin, c'est vraiment.
La trésorerie.
Il faudrait que je le fasse aussi, parce que tous les 3 mois, là, pour le coup, ça s'adapte.
Ouais. Mais c'est assez
compliqué. Ouais.
Et il y a ces délais pour les dépôts de dossiers, mais après, il y a une autre question qui est les délais, quand le dossier est accepté, de versement.
De trésorerie,
oui. De trésorerie, notamment pour les projets européens. Alors, parfois, il y a une partie qui est versée en amont, parfois non. Et du coup, quelle structure peut se permettre de porter de tels projets aussi?
C'est ça, une fois de plus, ça n'aide pas les petits, quoi, c'est sûr.
Donc,
il est 45. Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de rajouter? On s'arrête là.
Bon, bah, c'était très intéressant.
Danse.
Ouais, c'est danse. Bah, non, mais c'est chouette parce que du coup, ça lance plein de pistes aussi pour continuer à creuser, etc. Donc, peut-être là, on peut prendre 5 minutes pour les personnes qui veulent venir nous voir si, voilà, sur cette question des dispositifs, s'ils veulent venir s'inscrire pour travailler avec nous sur ces questions-là. Sinon, bah, merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Merci à Yael. Voilà, hein. Bah, voilà, bravo.
Merci. Bravo.